Je l'ai retrouvé dans un café près de Pigalle pour une heure de conversation entre films et chansons et sur ce métier de comédienne qu'elle exerce depuis qu'elle a 16 ans. Une échappée avec Marina Foïs, c'est Totémique jusqu'à 10h.
Je ne suis pas dans la catégorie des beautés supérieures. J'étais dans la catégorie des normales. C'est une chance.
Pourquoi c'est une chance ?
Parce que c'est un truc avec lequel on n'a pas à dealer et que la banalité, c'est cool. Je ne suis pas du tout en train de me dénigrer. Hein. Je suis une femme magnifique. Non, mais c'est pas la question. La grande beauté, ça s'oublie pas, en fait. C'est toujours là. Et je pense que c'est un piège encore plus pour une femme. Voilà.
Est-ce que je n'ai pas un café ?
Ouais, si, je veux bien. Ouais.
Il y a quelques jours, à Rieux-la-Pape, dans le Rhône, un cinéma baptisait l'une de ses salles, salle Marina Foïs. C'est chic. Cela dit, elle passe beaucoup de temps en salle, sur les fauteuils, comme spectatrice assidue. La semaine prochaine, Marina Foïs sera à l'écran pour incarner Simone Signoret dans un film de Diane Curis. Il s'intitule « Moi qui t'aimais » et raconte les 15 dernières années de la vie de Signoret. 15 dernières années d'un amour avec Yves Montand, joué par Roche Dizem. Dans ces années-là, Signoret tourne moins et boit plus. Le film raconte une vie de femme, de comédienne, qui aime un homme, le cinéma, et décide de n'être victime de rien. L'heure qui suit est une échappée dans la filmographie de Marina Foïs jusqu'à ce rôle de Signoret. Nous avions rendez-vous dans un café au centre de Paris. Comme dans tous les cafés, il y avait de la musique. Et comme souvent, le patron fut d'accord pour l'éteindre le temps de l'interview. Mais la musique n'est pas venue du café, elle est venue de la rue.
Ah, c'est Paris, madame.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah, ouais.
C'est pas normal, c'est quelqu'un qui passe dans la rue.
Ah, d'accord. On va peut-être attendre.
Ouais, on va attendre.
Il s'éloigne un peu.
Un homme s'était installé avec enceinte et trompette, pile sur le trottoir d'en face. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. J'ai tendu un casque à Marina Foïs pour lui faire écouter un chanteur. Plus tard, on écoutera celui qu'elle a choisi. Mais celui-ci, là, je savais qu'elle l'aimait aussi.
Higelin.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les mains avec moi.
Alors, Regina, c'était mon idole quand j'étais ado.
Voici mon message.
Un soir, je jouais une pièce de théâtre que j'avais jouée en banlieue parisienne et je jouais avec des gens, j'étais petite moi, mais je jouais avec des gens qui étaient des adultes et donc ils sortaient le soir. Et ce soir-là, après la représentation, ils décident de m'emmener chez Ali, rue des Lombards, qui à l'époque était le resto de nuit où on croisait un peu tout Paris, mais moi je connaissais rien de ça. Ils m'emmènent et il y avait Higelin là-bas. Et ils avaient été voir Higelin pour me faire la surprise, ils lui avaient dit « il y a une petite qui arrive, elle a 16 ans et elle est fan de vous ». Et moi j'arrive, et en bas de l'escalier, il y a Higelin qui m'attend, qui m'ouvre les bras, et qui me dit « il paraît que tu m'aimes ». Et moi, je m'évanouis à moitié en lui disant avec, j'avais une voix comme ça, et je dis « mais c'est pas que je vous aime, c'est que je vous adore ». Et en fait, j'ai passé la soirée avec lui, on a parlé de plein de trucs, et il m'a dit « tu seras une star ». Et moi, comme j'avais 16 ans, je l'ai cru. Donc, je suis rentrée chez moi, en banlieue parisienne, et j'ai pas été au lycée pendant 3 jours. Je suis telle Agrippine de Bretéché, allongée sur son canapé. Je passais des coups de fil comme ça en disant, ouais, j'ai appelé mes copines, je disais, ouais, tu sais, j'ai rencontré Higelin. Il m'a dit que je serais une star. Mais tout ça, très premier degré. Mais c'est généreux de sa part de me l'avoir dit parce que je pense qu'on croise beaucoup trop d'adultes au cours de notre vie qui nous disent non, qui nous disent c'est pas possible, qui communiquent la peur, l'amertume, la difficulté, et que je trouve qu'il n'y a rien d'autre à dire à un ado que bah oui, vas-y, voilà.
Mais à partir du moment où vous avez dit ton envie, elle est possible, vous y avez toujours cru?
Non. Ah non, j'ai douté, j'ai eu peur, et d'ailleurs j'ai encore peur. Hein. J'aimerais dire l'inverse, mais ce ne serait pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser sur ma route plein de gens qui m'ont permis d'y croire, et en tout cas d'enlever les mauvaises questions. J'avais eu également Nada Strancard, qui à l'époque était une grande actrice vitésienne, donc qui représentait beaucoup pour nous les jeunes de 20 ans qui voulions faire du théâtre. Elle avait été ma prof. Et un jour, elle me voit arriver, je sais pas, j'étais déprimée ce jour-là, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Et je lui dis, pareil, très premier degré, quoi, comme on est à 19 ans. Je dis, bah non, parce qu'en fait, je sais pas si je vais réussir à être actrice. Et elle avait éclaté de rire. Et en fait, je me suis dit, ah, mais ouais, peut-être que c'est une question con, en fait, peut-être que c'est pas la bonne question à se poser. Et j'ai arrêté de me la poser. Je me suis dit, c'est pas ça qui est intéressant. Et grâce à plein de gens que j'ai rencontrés, dont Isabelle Nanty aussi, j'ai compris assez vite qu'il valait mieux se concentrer sur ses désirs que sur ses peurs. Et je crois que ça m'a aidé beaucoup à avancer, parce qu'il faut beaucoup d'aplomb hein, pour décider qu'on va être acteur et croire y arriver. Enfin, c'est très insolent.
Mais est-ce qu'on le décide ?
En tout cas, dans mon parcours, il y a des gens qui deviennent Romain Duris et racontent beaucoup qu'il est devenu acteur par hasard. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'ai décidé très tôt, très jeune, que c'est ce que je ferais. Et j'ai eu de la chance de pouvoir le faire. Mais je crois que s'il n'y a pas de décision, s'il n'y a pas un sacrifice immense, qui par ailleurs n'en est pas un sacrifice immense à ce rêve, ça ne peut pas marcher. Parce que le talent, c'est... Je pense que le talent, c'est un peu bidon. En tout cas, ce n'est pas le talent qui fait les carrières. Ceux qui réussissent en ont, il n'y a pas de doute. Mais le talent, c'est quelque chose qui se pratique et qui s'entretient. Et sans personne qui vous dise oui, qui vous choisisse, qui vous donne des rôles, le talent, il ne sert à rien, en fait.
Le tout premier rôle, vous aviez 16 ans et vous jouiez Agnès dans L'école des femmes.
Oui.
Après, vous rencontrez les Robin des Bois.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris avec cette troupe-là ? D'être filmée tous les jours.
Oui, ça c'est sûr. L'idée de travailler au quotidien, c'est merveilleux pour un acteur parce que c'est pas la réalité quand on est jeune, en fait. Aller au bureau pour écrire et jouer, c'est merveilleux. Donc ça a enlevé beaucoup de peur et de complexe parce qu'en effet, c'est une familiarité avec la caméra, c'est pas rien d'être filmé. Du coup, c'est pareil, il y a encore des questions qui tombent, on n'a pas le temps de se poser la question de « Ah bon, on fait ça, il faut le faire ?» Bah oui, il faut produire. Ça, c'est une chance. Et puis la chance, c'est le groupe. Moi, je viens d'une famille nombreuse. J'ai retrouvé une famille nombreuse qui protège. Ça permet de se mettre à l'ombre au moment où on rencontre la lumière. Et ça, c'est une chance parce que la lumière, c'est aveuglant pour tout le monde. Hein. C'est pas le succès hein, et on revient à la notoriété. C'est pas des choses normales, c'est des choses avec lesquelles il faut apprendre à dealer. Donc c'est bien d'être plusieurs en fait. Et puis tout simplement, je veux dire, d'être payé pour rire et faire rire. Enfin, c'est le luxe ultime.
Et de fait, au quotidien, ça veut dire que bah, y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien.
Ah bah oui, oui,
et il y avait quand même dans cette troupe l'idée que bon, bah, ça marche pas, c'est pas grave.
Ben, on n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, Chabat nous avait dit « Non mais c'est un combat perdu d'avance, vous écrirez et vous ferez de la merde, acceptez-le. » Parce que 5 sketchs par jour, c'est pas possible d'écrire 5 bons sketchs par jour. Et en fait, il y a une beauté du ratage, il y a une beauté du bide. En fait, c'est aussi partager avec les gens qui nous regardent ce qu'on cherche. Et c'est beau de foirer. Par ailleurs, il n'y a pas de choses réussies sans choses ratées. Enfin, la tarte tatin, on est le meilleur exemple. Donc, on est tous des grosses tartes tatin. Et c'est pas grave. Et ça, c'était un truc de survie qu'on a compris assez vite. Et c'était pas con de le prendre comme ça, en fait.
Pour s'attarder quelques minutes sur ce moment de votre parcours, il y a un personnage qui s'est distingué, qui s'appelait Sophie Pétoncule.
Ouais.
Vous faites la grimace.
Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout.
Les aventures de Sophie Pétoncule. Aujourd'hui, Sophie chez le radiologue.
Bonjour.
Bonjour.
Arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel, les fesses.
Tu peux attendre 10 minutes, si tu veux.
Oui, elle est déroutante. C'est dur de l'assumer. Mais moi, ce qui me frappe, c'est d'ouvrir un sketch en disant « Arrêtez de regarder mes fesses, tu peux regarder mes nichons si tu veux. Je » Je ne sais pas d'où c'est sorti. Et en même temps, ça raconte quand même une... Non mais, c'est bizarre, quoi. C'est une femme plongée dans le monde. C'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je refuse, qu'est-ce que j'accepte. En fait, bon, on va pas faire de la philo sur les sketchs des Romains des Bois, mais voilà, c'est un rapport au monde qui est pas banal. Non, mais après, faut pas se la péter non plus avec les sketchs des Robins des Bois. Hein. Je veux dire, faut pas prendre les choses trop au sérieux. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on a dites comme ça, sans maîtriser du tout ce qu'on racontait. Hein.
Et après cette aventure d'écriture au quotidien, il y a un rôle qui vous a fait changer de registre, qui, je pense, a compté vraiment dans votre parcours. C'est un film qui s'intitule Darling. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là?
Ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a Christine Carrière, qui était une réalisatrice, qui avait fait un premier film, Rosine, qui était un très très beau film, donc un cinéma d'auteur très fort. Donc, c'était pas évident que je puisse y avoir accès si vite en étant tous les jours sur Canal Plus à faire des sketchs. Et en fait, elle cherchait une actrice parce qu'elle adaptait le livre de Jean Tullier qui s'appelle Darling, qui est l'histoire vraie d'une femme, le parcours d'une femme maltraitée par tous et tout le temps.
Il se trouve. Ce qui est quand même aux antipodes absolus de l'esprit des Robins des Bois, enfin de ce que vous faisiez. C'est-à-dire que Christine Carrière, la réalisatrice, elle a su voir dans votre travail ce rôle-là.
Mais elle a toujours dit qu'elle était très intéressée par tous les comiques et les acteurs comiques parce qu'elle disait « Vous avez un sens du ridicule qui est beaucoup plus intéressant que la moyenne des gens. » C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, ce qui veut dire que vous êtes capable de plonger dans des zones troubles et c'est ça qui l'intéressait. Par ailleurs, moi, quand je l'ai rencontré, il se trouve que des années avant, j'avais lu le bouquin et que très étrangement, en lisant ce livre et en découvrant cette femme, Darling, j'y m'y étais reconnue. Je peux pas expliquer pourquoi, parce que elle est née dans le quart monde paysan de la Normandie. Je suis née d'intellectuels multi-exilés. Enfin, ça n'a nos vies n'ont rien à voir. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose de sa douleur ou de sa manière de s'élever au-dessus de son destin, à sa manière, avec ses mots à elle. Je l'ai aimée très 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 fort. Et donc je suis arrivée au rendez-vous et je lui ai parlé de cette femme que à la fin je connaissais aussi comme elle. Et je pense que j'étais la première actrice qu'elle rencontrait qui connaissait sa darling. Et donc ça l'a beaucoup troublée.
Pourquoi vous m'avez pas tout dit la première fois que vous êtes venue ici, Madame Nicole?
Parce que je suis trop timide.
Extrait de Darling de Christine Carrière, sorti en 2007, adapté d'un roman de Jean Tullier, lui-même inspiré d'une histoire vraie. Catherine Nicole, dite Darling, pense échapper à la violence de ses parents en se mariant. Mais une fois mariée, la violence à laquelle elle est confrontée est encore plus grande. Dans la scène qui suit, Darling est dans le cabinet de son avocat pour intenter un procès contre son mari.
Je me demande vraiment ce qu'il y a de vrai dans tout ce que vous me racontez.
Franchement, moi non plus, je sais plus trop. J'ai la honte qui me tient beaucoup de place. Et souvent, le vrai du faux se mélange. Ça se mélange un peu dans ma tête. Pourtant, ma tête, je l'ai toujours protégée. Je pouvais taper là où je voulais, ça me faisait plus mal. Mais la tête, je mettais toujours mes mains comme ça. Je suis partie pour sauver mes gosses, ça c'est sûr.
Je trouve que le lien entre différents personnages, de Darling à Signoret aujourd'hui, en passant par la volcanologue que vous jouez dans Magma, c'est des femmes qui ne lâchent rien.
Ah oui, c'est vrai.
C'est un lien que vous avez fait ou pas, de cette opiniâtreté?
Non, je l'aurais pas dit comme ça, mais quand je l'entends dans votre bouche, je me dis oui, c'est juste. C'est juste. Et je lâche pas grand-chose moi-même. Ouais. Parce qu'on a le choix, en fait. Après, le cinéma raconte souvent des héroïnes, les grandes, celles qui font l'histoire avec un grand H, mais des héroïnes du quotidien, il y en a plein partout. Et c'est des femmes qu'on a envie de raconter, probablement parce que si elles donnent du courage à d'autres, ou parce qu'on veut leur être reconnaissante d'une certaine manière, c'est important de lire l'histoire de Darling ou d'une autre Darling. Et dans la vie, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont des femmes courageuses et j'en ai besoin.
Comme des coupés de flèches qui donnent des... Si ma signorée, comment êtes-vous par rapport aux autres femmes qui ont votre âme? Car vous savez qu'il y en a. Il y en a qui sont terriblement malheureuses dès lors qu'apparaît la première ride.
Oui.
Vous, au contraire, vous la provoqueriez, cette première ride.
Oh, faut pas exagérer. J'en, vous savez,
la
ça, c'est mon, ça c'est mon numéro. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente. J'ai grossi et ça m'est complètement égal. C'est des choses qu'on dit comme ça. Je m'en arrange. Bon. Alors, je m'en arrange et je prends le meilleur de ce que je peux en tirer.
Ce que vous venez d'entendre est un extrait de l'émission Radioscopie présentée par Jacques Chancel le jour où Simone Signoret était invitée. C'était en novembre 1973. Elle avait 52 ans. Moi qui t'aimais, le film de Diane Curie en salle la semaine prochaine, raconte justement la vie de Signoret à partir de ces années-là. Yves Montand est interprété par Roche Dizem et Simone Signoret par Marina Foïs. On va écouter à nouveau la voix de Simone Signoret au micro de Jacques Chancel, qui la questionne sur son vieillissement et la beauté disparue, puis la suite de la conversation avec Marina Foïs dans Totémique.
Je pense que par rapport aux femmes, je pense que ça doit être tragique pour certaines femmes qui n'ont que ça, enfin, qui ne peuvent pas s'en servir. Je veux dire qu'une femme qui arrive à mon âge et qui n'a pas cette soupape fantastique de défoulement et de joie qui est de jouer la comédie, ou de faire un métier qui la passionne, un autre métier qui la passionne, il y a sûrement des moments où ça doit être très dur.
Qu'est-ce que Signoret représente dans votre vie personnelle et ensuite dans votre vie d'actrice ?
Je pense que c'était la femme qui m'impressionnait, cette puissance évidente, cette intelligence supérieure et cette impression de liberté qu'elle donnait.
Moi, donc plus le personnage que la comédienne au départ ?
Dans mon souvenir, oui. Par ailleurs, je ne sais pas si je pouvais complètement m'identifier à elle comme actrice parce qu'elle a débuté, elle était une beauté phénoménale. Et je savais déjà que je n'étais pas cette beauté-là, que je n'étais pas dans la catégorie des Signoret, Adjani, Deneuve. J'étais dans la catégorie des normales, ce qui est une chance. Hein. Je ne suis pas du tout en train de me dénigrer. Hein. Je suis une femme magnifique. Non, mais ce n'est pas la question. Mais je ne suis pas dans la catégorie des beautés supérieures. C'est une chance.
Pourquoi c'est une chance ?
Parce que c'est un truc avec lequel on n'a pas à dealer et que la banalité, c'est cool. Ça permet de se reposer et de retourner dans l'ombre régulièrement. Je pense que pour une femme, c'est quelque chose qui se pose entre vous et l'autre tout le temps. Vous n'en êtes pas responsable. La grande beauté, ça ne s'oublie pas, en fait. C'est toujours là. D'ailleurs, il y a une réplique dans le film que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas la citer intégralement, mais c'est terrible d'avoir été belle. Je ne connais pas de pire punition. Ça veut dire aussi, qu'est-ce qu'on fait de la beauté quand elle n'est plus là, ou comment on accepte que la beauté se fane, etc. Mais pas que. Je pense que susciter un désir brutal et une fascination comme ça sur la beauté, je pense que c'est compliqué pour une femme. Je suis contente de ne pas avoir été dans cette équipe-là.
Mais d'ailleurs, le film raconte Signoret et Montand dans les 10 dernières années de sa vie à elle. Ça, ça vous intéressait ? Il n'y a pas justement l'époque casque d'or, etc.
D'abord, c'est ça qui m'intéresse, la vraie question, qui est celle que pose le film, qui m'intéresse parce que je crois qu'elle est universelle, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste de la beauté, de la jeunesse, de l'amour, du désir, du succès, de l'engagement, de la foi. C'est ça le sujet du film. Et ça m'intéresse parce que je crois que je me la pose tout le temps, cette putain de question. Qu'il faut une discipline pour que rien de tout ça ne se transforme en amertume. Il faut une discipline pour ne pas être dominé par la peur de ce qu'on perd et pour ne pas faire les comptes tous les jours de ce qui n'est plus là. Il faut avoir beaucoup de courage pour dire ben, c'est ça que j'ai et c'est avec ça que je continue et c'est ça que je transforme. Et puis ce qui m'intéressait, c'était vraiment, oui, jouer une actrice qui a les cheveux gris et qui a grossi et qui a vieilli.
Pourquoi ça vous intéressait, ça ?
Parce que c'est une femme qui ne s'est pas soumis à toutes les injonctions, qui a délibérément choisi de ne pas poursuivre l'éternelle jeunesse.
C'est la seule que je connaisse.
C'est la seule. Parce qu'il y a quand même cette traîne un peu. Pamela Anderson qui dit qu'elle arrête le maquillage, Andy McDowell qui laisse ses cheveux gris. Sauf qu'il n'y a pas de doute qu'elles sont ultra prises en charge pour leur red carpet. Elles ont des robes magnifiques. Probablement, Pamela Anderson, elle fait 12 massages Cobido par jour à 250 euros le massage. Et elle a raison. Je ferai la même chose. Mais quand elle décide d'apparaître pas maquillée, elle n'est pas complètement pas maquillée. Je veux dire, c'est des femmes qui restent très sophistiquées, très ultra élégante et tout ça. Donc c'est un faux lâcher prise, c'est détourner une injonction, et c'est malin et c'est chouette, et je les remercie parce que c'est nécessaire, tous ces pieds de nez. Mais la vérité, c'est que la seule qui assume apparemment les kilos, l'âge, le laisser aller, une certaine forme de décadence, parce qu'elle l'a dit dans des interviews, hein. Je me souviens d'une interview qui m'avait frappée justement à 16 ans. Un journaliste lui disait, mais c'est incroyable parce que votre esprit est tellement jeune. Elle dit, ouais, enfin, c'est quand même dommage de loger cet esprit si jeune dans ce vieux tas de débris. Donc elle avait aussi de l'ironie par rapport à ça, qui était certainement une ironie défensive. Hein. Je crois pas qu'il n'y a pas eu de douleur avec ça. Puis par ailleurs, c'est pas seulement qu'elle assume l'âge, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la destruction quand même, parce que ses kilos et ses rides et tout ça, ils sont aussi ceux de l'alcool. Et ce serait absurde de pas le dire. Je veux dire, c'est festif quand c'est de temps en temps, c'était pas son cas.
Oui, on la voit régulièrement avec un verre d'alcool à la main. Comment vous avez joué l'ivresse ?
Alors ça, c'était hyper dur, parce que c'est très très dur à jouer l'ivresse. Alors j'avais trouvé un truc. Quand je me sentais trop rigide, j'avais une bouteille de Prosecco dans ma loge. Et parfois, même le matin, je buvais une gorgée, pas pour être ivre, mais pour avoir le goût de l'alcool dans ma bouche. Et que je me disais, ça, c'est un truc qui va imprimer la scène. Bon, je ne sais pas si ça marche, mais c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, il y avait une scène où Simone devait être ivre. Et je suis passée un peu par des clichés de titubage ou de ralentissage de l'addiction, tout ça, et ça me paraissait complètement faux, et Diane n'était pas satisfaite, et tout d'un coup, je suis passée par la méchanceté. Et ça, ça a marché. Voilà.
J'aimerais bien qu'on regarde une scène.
Ouais, avec plaisir.
La scène en question se déroule dans l'appartement de Montand et Signoret, place Dauphine à Paris. Il est debout, elle est assise, Marina Foïs et Signoret, Roche Dizem et Montand, dans Moi qui t'aimais, film de Diane Curis, en salle le 1er octobre.
Qu'est-ce que tu fais toute la journée sur ton canapé ? Tu fais quoi ?
Je t'aide à apprendre ton texte, puis sinon je tricote. Parce que je tourne pas, moi, je m'emmerde, faut bien que je m'occupe.
Mais c'est ta faute si tu tournes pas.
C'est de ma faute ?
Ben oui.
Mais t'as pas compris ? Plus personne veut de moi. Toi, le monde, personne. Plus personne. Parce que j'ai plus la gueule de l'emploi.
Mais fais un effort. Les artistes, elles s'entretiennent. Elles font du sport, moi j'en fais tous les jours. Je fais attention à ce que je bois, je fais attention à ce que je mange, résultat.
Résultat, t'as la taille fine et pas moi. C'est ça qui t'emmerde, hein ? Dis la vérité. Pas que je tourne pas, parce que ça, tu t'en fiches. Le problème, c'est que t'as honte de moi. Parce que quand on nous croise dans la rue, c'est ça qu'ils disent les gens. Oh, regardez Signoret comme elle a morflé. Mon temps, il est encore pas mal, mais elle, on verrait sa mère. Et ça, ça t'emmerde, hein ? Dis la vérité.
Ce qui m'emmerde, c'est de te voir malheureuse. Il y a un acteur qui travaille pas, c'est un acteur malheureux.
Arrête ton cinéma. Pas à moi que tu penses.
Ça, ta gueule. Et moi, j'en ai rien à foutre de ma gueule, et j'en ai encore plus rien à foutre de la tienne.
Oui.
Là, elle n'est pas méchante, elle est terrible, et elle est juste. Elle est rigoureusement honnête. C'est ce qu'elle cherche, en tout cas. Elle a décidé qu'elle ne serait pas une victime, ni de mon temps, ni de ses kilos, ni de son âge, ni du cinéma, qui peut être la moins désirée par moment. Elle a décidé qu'elle raconterait cette histoire comme celle de ses choix à l'infini.
Qu'est-ce que vous voyez dans cette scène-là, vous ? Qu'est-ce que vous voyez dans le travail ?
Ce qui m'a intéressée, c'est comment je me suis démerdée avec l'enjeu, avec ce qui était difficile à faire. J'ai trouvé le plaisir et j'ai été terrorisée et j'ai surmonté ma peur. J'ai bricolé un truc qui m'a intéressée et je crois que ce travail-là, l'exercice de ce travail-là, m'a donné du courage. Parce que, du courage d'actrice, hein. Parce que j'ai pas eu d'autre choix que de m'abandonner et de plonger. Et j'avais très peur au début. Et j'ai écrit à mon amie, Marie-Ange Luciani, qui est la productrice d'Anatomie d'une chute, mais je dis ça pour dire que, avec elle, on parle beaucoup de cinéma, mais on est aussi très amis. Et elle m'a envoyé cette citation que je cite approximativement. L'important, c'est pas de comprendre, c'est de perdre connaissance. Et j'ai essayé de perdre connaissance tous les jours sur ce plateau. Je crois que j'ai un petit peu réussi. Et je voudrais conserver ce courage-là d'être capable de m'évanouir tous les jours sur un plateau de cinéma et de laisser arriver ce qui doit arriver. Voilà.
Elle s'appelle Yoa et ce morceau s'intitule « La favorite ».
Partez devant, je vous rejoins. Vu d'ici, mes rêves me paraissent si loin. Loin de moi l'idée d'en refaire. Je construis des châteaux de poussière. J'aurai la maison sur la plage. L'intelligence en héritage. J'attendrai plus comme une enfant. Je n'ai pas écrit la suite comme si des dieux j'étais la favorite. Oh, oh, j'aimerais prendre la fuite, percer le ciel comme une météorite. Oh, oh, je n'ai pas écrit la suite.
Ce matin, c'est une échappée avec Marina Foïs dans une filmographie qui compte plus de 60 films. De Filles perdues cheveux gras, de Claude Duty, à Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, en passant par Police, de Mai Wen. La semaine prochaine, Marina Foïs est à l'affiche de Moi qui t'aimais, de Diane Curis, aux côtés de Roche Dizem. Elle y interprète Simone Signoret.
La maîtrise, l'expérience, le savoir-faire, c'est pour moi, c'est des ennemis, c'est parce que je cherche en fait. Je cherche le renouvellement, la surprise, l'accident, le...
Et vous pouvez repérer les moments où justement vous pouvez vous reposer sur un savoir-faire ?
Ouais. Ouais, il y a des prises qui ne m'intéressent pas. Il y a une prise que je fais, je sais que j'ai été, voilà, j'ai activé des espèces de réflexes de jeu, voire des tics, voire... Bah oui, oui.
C'est quoi ces réflexes ?
Parfois, peut-être que je... peut, dans mon rythme, prendre, parler plus lentement que prévu, pour, ou essayer de créer un faux trouble. Je crois que parfois je fais ça. Je me raccroche à des petites bizarreries qui sont fabriquées. Voilà. Je dois me raccrocher à mon élan vital quand je joue. Être moins calculé que ça. Mais il y a des fois aussi où je cherche. C'est pas grave de faire des mauvaises prises. Hein. Au contraire, c'est bien même. C'est bien de faire des prises vraiment pourries. Enfin, ce qui est bien surtout, c'est d'expérimenter, de prendre des chemins qui sont pas les bons pour découvrir le vrai. Quoi, il y a pas de, le but, c'est pas, on n'est pas à l'école. Hein. Le but, c'est pas de faire la meilleure première prise du monde. On s'en tape. Un jour, on faisait une scène que j'aimais bien faire et je savais que cette scène, on pouvait la jouer de plein de manières différentes. Donc, on aurait pu faire 18 prises et au bout de quelques prises, Diane est contente. Et elle me demande si je veux en faire une de plus. Et moi, je n'ose jamais dire oui, j'aime pas demander une prise de plus. Et Fabienne Octobre dit, j'aimerais bien en avoir une. Et donc, je lui dis, bah, je la fais pour toi. Et après, j'ai été la voir à la fin de la journée de tournage. Je lui ai dit, ne te censure jamais, demande-moi toujours. On fera toujours ta prise. Parce qu'en fait, c'est très agréable de jouer pour quelqu'un. C'est une raison suffisante de jouer.
Pourquoi vous dites, quand on me demande si je veux faire une prise de plus, je veux pas dire oui? Enfin, j'ose pas dire oui.
J'aime pas que ce soit à moi de prendre cette responsabilité. J'aime pas être le chef. C'est pas ma place. Je veux être choisie, je veux être dirigée, je veux être regardée, je veux être déplacée. Mais attention, hein, je ne m'exonère pas de ma responsabilité. Pas du tout en disant ça. Mais ma liberté, c'est dans ce qu'on me demande. J'ai pas besoin d'être toute seule face à moi-même, avec moi-même. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je suis actrice, moi, j'aime bien. C'est pas une sous-place. Le fait d'être le vecteur entre le metteur en scène et le public, le fait d'être interprète, ça, c'est noble. J'ai pas de frustration à cet endroit-là, moi.
Est-ce que d'interpréter plein de personnages différents, hommes ou femmes, est-ce que ça vous a assoupli?
Oh oui, je crois. Oui. La vie m'a attendrie. Et tant mieux pour les gens qui me sont proches.
Et votre métier aussi vous a attendrie?
Je crois. J'ai eu de la chance, hein. Je crois que j'ai été globalement très bien traitée. Donc ça change tout.
Il y a un regard et un cinéaste sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu. C'est Laurent Cantet.
Oui, super. Est-ce que je peux juste aller aux toilettes?
Ah oui, bah oui, c'est autorisé.
J'en profite pour revenir sur le parcours de ce cinéaste qui était Laurent Cantet, décédé l'année dernière. Laurent Cantet s'est fait connaître en l'an 2000 avec Ressources humaines. 8 ans plus tard, il remporte la Palme d'Or pour Entre les murs, adapté d'un roman de François Bégodeau. Marina Foïss le rencontre en 2006-2007 pour le tournage de L'Atelier. Elle joue une écrivaine parisienne qui anime un atelier d'écriture à La Ciotat pour des jeunes en réinsertion. Parmi eux, il y a Antoine, qui est séduit par les armes, les discours nationalistes et dont les textes choquent les autres participants à l'atelier d'écriture. Extrait de L'Atelier de Laurent Cantet avec Marina Foïss.
Vous semblez penser que l'auteur partage forcément la vie de ses personnages. Mais alors, si c'était le cas, il faudrait interdire 90% des livres, des films, des œuvres d'art et enfermer tous les auteurs de romans noirs, entre autres. Que ça vous plaise ou non, on peut tout à fait écrire une scène de massacre sans être soi-même un serial killer. De même qu'on peut décrire un personnage raciste sans l'être.
Mais j'ai pas décrit personnage raciste, c'est Étienne qui a parlé de trucs du djihadiste, je sais pas quoi, là.
Je me laisse finir maintenant.
Mais parlez.
Dans une fiction, on peut tout à fait restituer une pensée sans la partager, pour la dénoncer même. Voilà, c'est la force d'une œuvre d'art. Vous me suivez?
Il a été hyper important pour moi. C'était quelqu'un, justement, bon, qui avait un rapport, justement, au pouvoir et à la place du metteur en scène, qui est une place dominante. C'était quelqu'un qui disait « le pouvoir ne m'intéresse pas », mais c'était vrai. Son plateau, il était vraiment démocratique, dans le sens où ce qui guidait, c'était le sens de ce qu'on est en train de faire, qui doit émerger par le travail de tout le monde et de chacun ensemble. Et il n'y avait pas sur son plateau, ce qui était très singulier pour moi, ce qui m'avait frappé et qui m'avait beaucoup plu et qui reste une référence, c'est qu'il n'y avait pas, comme il y a sur d'autres plateaux, le temps de la lumière, le temps de l'acteur, le temps du metteur en scène. C'était un temps commun pour faire émerger le cœur de ce qu'on a raconté. Cette rigueur-là, c'est une valeur supérieure. Voilà.
Les films même de Cantet, ce que racontent ces films, c'est un homme qui était très politique,
ouais,
et pas péremptoire.
Absolument. C'était une grande conscience, je veux dire, les...
Ce qui est hyper rare de nos
c'est
jours.
Très rare. C'est-à-dire se faire entendre en parlant bas, c'est beau. Se faire entendre en gueulant, c'est ce qu'on fait tous. On jouit de notre capacité de violence, de force. On aime. Il y a la tendance à contraindre, à asseoir, à faire plier. C'était pas son combat. C'est beau et c'est rare. Pour moi, c'est une ref. Et puis son engagement quand même politique. Son dernier film, donc réalisé par Campillo,
Enzo,
sur cet adolescent qui ne sera pas l'enfant dont ses parents rêvaient. Comment on fait quand on ne se reconnaît pas dans l'autre, qu'on n'est pas le produit espéré? Comment on trouve le chemin de la liberté? Voilà, c'est très beau. Ça m'a hyper ému.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à des attentes, justement,
dans,
par rapport à vos parents?
Oui, j'allais dire non, mais oui, évidemment, enfin, on est désespérément, je suis le produit de mon milieu, de ma classe sociale.
C'est-à-dire ?
Ben, je m'habille comme les femmes de mon milieu, je pense plus ou moins comme les gens pensaient de là d'où je viens. Enfin, je veux dire, j'ai rien inventé de ce que je suis. Je suis pas une révolutionnaire.
Vous venez d'où ?
Je viens d'une famille d'immigrés de partout. Je viens de l'exil et du mélange. Je viens de la mixité raciale, mais pas de la mixité sociale, parce que je viens d'un milieu bourgeois de tous les côtés, ce qui change tout, et d'une immigration blanche, ce qui change tout. Mais je crois que cette idée de l'exil et de n'avoir fréquenté que des gens qui ne vivaient pas là où ils étaient nés, je pense que c'est quelque chose de très puissant dans mon identité. Je n'en ai aucun doute.
Vous savez en quoi ? Vous savez comment ça a façonné votre sensibilité ?
C'est-à-dire que je crèverais dans un monde où tous les gens sont châtains. L'uniformité m'ennuie et m'étouffe. Il y a une fragilité, qui est celle de l'exil, mais il y a aussi une richesse, une culture avec laquelle on arrive, qu'on doit, sans la quitter, adapter à l'adaptation nécessaire. Ce qui reste des racines, tout en disant que la racine, c'est super, mais on a le droit de décider qui on est. On n'est pas défini que par d'où on vient.
Mais vous dites, j'ai rien inventé par rapport à votre milieu, etc.
Je ressemble à mes parents. Version 2025. C'est ça que je veux dire, mais c'est pas grave, hein.
Donc bourgeois et avec un capital culturel costaud.
En gros, ouais. Ça, c'est une chance.
Elles sont deux et s'appellent Wet Leg. Mange tout, c'est le titre de ce morceau. Ouais, si, je veux bien.
France Inter, totalique,
expresso.
Ouais. Marina Foïs était au café et dans Totémique. La semaine prochaine, elle incarne Simone Signoret dans le film « Moi qui t'aimais » de Diane Curis. J'ai aussi la sensation que votre vie de spectatrice,
oui,
de cinéma fait aussi la femme que vous êtes.
Ah oui, oui, moi je me nourris comme un vampire du cinéma, des films. Ouais, je crois que j'y apprends tout, mais tout. Je pense grâce au cinéma, je ris, je pleure, je ressens, je me déplace. Ce qui est beau avec une caméra, c'est qu'elle peut nous emmener, nous faire regarder à des endroits où on n'irait pas regarder naturellement. Donc ça, je pense que Ouais, je pense que le cinéma m'ouvre et m'apprend et me déplace, ouais.
Vous y allez ?
J'y vais souvent, dès que je peux. Ouais, j'y vais beaucoup. J'adore la salle de cinéma.
Et vous dites vos admirations ? Vous les publiez ?
Alors je suis complètement impudique. Bah oui. Bah oui, mais moi j'ai grandi avec des modèles, j'en veux d'autres, j'en veux des nouveaux, je m'inspire, j'ai pas du tout de honte par rapport à ça. Ah ouais.
Bah il y aurait pas de quoi avoir.
Non mais je le dis en direct, je le dis publiquement. Ah ouais, je suis très décomplexée.
Huppert, Deneuve, Gina Rollins.
Ouais. Plus contemporaine, je suis fascinée par Renate
Reinsve.
Oui.
La comédienne qui joue dans plusieurs films de Joachim Trier, ouais, dont le dernier, Valeur sentimentale.
Ouais. Qui vient de faire aussi un film avec Christian Mungiu, qui est un des plus grands cinéastes européens, qui va travailler avec Alexander Payne. Elle a une carrière hallucinante. Mais c'est une actrice qui me fascine. Taha Rahim, enfin, il y en a plein. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que les gens d'avant, hein. Il n'y a pas que les gens avec qui tout le monde est d'accord. Il y a aussi des gens qui sont très très inspirants. Exarchopoulos, elle est très très inspirante.
C'est marrant que vous appeliez les gens par leur nom de famille.
Ah oui.
Ouais. Bah ouais, vous dites Bardem, Exarchopoulos. Oui. Vous dites pas Adèle, Exarchopoulos. C'est marrant.
Alors je le fais beaucoup dans la vie. J'aime bien. Peut-être c'est italien. En Italie, on dit la Fois. Ouais. Et ciao, Fois. J'ai été faire des essais à Rome là pour un film et je retrouve Mastandrea, un acteur italien avec qui j'avais déjà tourné, donc pour faire les essais. Donc, je ne l'ai pas vu depuis 3 ans. Il me dit « Ah, come stai, Fois ?» Et donc, je sais pas. Moi, j'aime bien, ouais.
Ben, on va terminer avec l'Italie.
OK.
Avec le tube que vous avez choisi.
Ouais. Avec le Chodal.
Si.
Ascoltiamo.
Et la chanson s'intitule
Felicità.
Al buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo più. Ma io voglio di parlare, di stare a ascoltare, di continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più. Felicità, su quale treno della notte viaggerà.
Chez le Chodal, là, il y a quand même une nostalgie qui me semble raisonner avec Simone. Et puis, c'est mon chanteur italien, je sais pas l'effet que me fait sa voix, je sais pas si c'est sa tendresse, il me bouleverse. Et puis, Felicità, sur cette chanson-là, typiquement, l'idée de la joie. Felicità, c'est exactement félicité, mais comment, ou du bonheur, ce concept peut-être inventé par les Américains, et qui a une espèce de. C'est une terreur, l'idée du bonheur qu'on devrait absolument attraper. Et en même temps, la joie, c'est une discipline, et je veux m'astreindre à cette discipline. C'est un contre-pouvoir aussi, cette phrase de Deleuze, là, qu'on voit circuler partout sur Instagram, mais qui est quand même intéressante. Le pouvoir aime les corps tristes, donc la joie, c'est une résistance.
Mais dans cette chanson, il y a l'idée que le bonheur, il passe, ouais, et il s'arrête jamais, ouais, quoi.
Oui.
Il est dans un train.
Oui, un train qui arrive vite et qui repart en train de nuit. Je crois que c'est vrai. Puis d'abord, si la joie, elle existait, c'est pareil, c'est le contrepoint. Quand elle arrive et qu'elle traverse, elle est belle parce qu'on sait qu'elle ne restera pas. Si on était joyeux de la naissance à la mort, on se ferait chier aussi avec la joie. Je veux dire, ce serait devenu autre chose.
Est-ce que ça correspond, cette chanson, à un moment précis de votre vie ou pas?
Non, Lucio Dalla, il correspond à ma vie en entier. Il a toujours été là, et je pense qu'il sera toujours là. Mais il est là beaucoup, hein. Je l'écoute très souvent. Et puis il a écrit des chansons d'amour magnifiques. Mais bon, je pense aussi que c'est tout simplement le lien avec l'Italie qui est là très très au quotidien. En fait, c'est très l'Italie, elle est très présente dans ma vie.
Parce que vous êtes, vous avez des origines italiennes, sardes.
Mais enfin, Rebecca, plus que des origines, j'ai la nationalité italienne, j'ai mon passeport italien. Oh, la cittadinanza. Ouais, bah ouais. On a une maison de famille et j'ai une famille en Italie. Donc, ouais.
On passe à votre carte blanche ?
Ok.
Qu'est-ce que vous regardez ?
Non, je regarde mes mollets.
Oui, il m'arrive de regarder mes mollets. C'est un geste qui n'a pas de sens. Voilà.
La carte blanche.
Oui.
C'est un texte qui est évidemment plus politique. Mais parler de Simone sans parler de politique, ce serait une hérésie. C'est un texte qui a été écrit par un magistrat, pour des magistrats. Je l'ai coupé, tronqué, un tout petit peu arrangé. C'est un texte que je trouve magnifique. Je ne le restitue pas dans son entièreté. Je vais citer des passages qui résonnent chez moi. Ne soyez pas victime de vos préjugés de classe, religieux, politiques ou moraux. Ne croyez pas que la société soit intangible, l'inégalité et l'injustice inévitables, la raison et la volonté humaine incapables d'y rien changer. Ne croyez pas qu'un homme soit coupable d'être ce qu'il est, ni qu'il ne dépende que de lui d'être autrement. Autrement dit, ne le jugez pas. Parce que vous êtes instruit, ne méprisez pas l'illettré. Ne jetez pas la pierre à la paresse, vous qui ne travaillez pas de vos mains. Soyez indulgents au reste des hommes. N'ajoutez pas à leur souffrance. Ne soyez pas de ceux qui augmentent la somme des souffrances. Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids, il faut que vous la fassiez pencher un peu d'un côté. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le plaideur contre la justice. Réformez-vous vous-même. Consultez le bon sens, l'équité, l'amour du prochain, plutôt que l'autorité ou la tradition. Voilà, moi j'ai besoin de petites boussoles morales. C'est facile de perdre le nord de la morale athlétique, de s'engouffrer dans des grands courants de pensée plaqués, surtout à l'ère des réseaux sociaux où la morale se fait en 12 signes et demi. Ce texte-là, il m'intéresse hors contexte dans ce qu'il dit de réforme-toi, questionne-toi, ne plaque pas, méfie-toi du pouvoir pile au moment où il te tombe dessus. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je trouve que j'imagine un monde où ceux qui ont le pouvoir le questionneraient tous les jours, ou ceux qui ont le savoir le questionneraient tous les jours. Je rêverais de ce monde-là où la morale et la pensée, c'est très très personnel, et très personnel parce que très engagé, parce que ce serait la rigueur de se questionner en vrai, de dire aussi régulièrement, bah tiens, je sais pas, j'ai pas d'avis. Et puis tout d'un coup, quand j'en ai un avis, c'est parce que j'y suis passée. En fait, je me suis vraiment posé la question. Pour moi, c'est ça qu'évoque ce texte-là. Et questionner tout le temps les rapports de force.
La dernière séquence, c'est une séance photo.
Ah !
Ouais.
Ok.
Avec un Polaroid.
Ok.
Vous êtes d'accord ou pas ?
Ouais. Je suis pas maquillée du tout et tout, on s'en fout.
Alors, est-ce que là, ça vous va comme ça ?
Bah ouais.
Alors.
Vous êtes sûre qu'il a marché ?
Non. Faut être patiente.
Ok. Ah, ça c'est compliqué. Hein. Oh,
ouais, non.
J'apparais pas du tout. Bah, c'est génial. Je ne suis pas fixable sur une photo. Le comble pour une actrice, ne pas imprimer la pellicule.
Si, regardez-vous.
Ah si,
j'apparais. Je me retrouve.
Voilà, c'est ma tête du lundi matin.
C'est-à-dire ?
Bah, la tête du lundi matin. Bah, on n'a pas encore complètement repris la vie sociale.
Ça vous va ?
Oui, ça me va. C'est moi, quoi. Qu'est-ce que je vous dis ?
Merci beaucoup, Marina Foïs.
Merci à vous.
Marina Foïs est à l'affiche de Moi qui t'aimais dans le rôle de Simone Signoret. Le film est réalisé par Diane Curis. Il est en salle mercredi prochain. «
Stéphane Le Guenec réalise Totemic et c'était avec Laurent Baudouin ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve tous les sons et la documentation. Et JB Audibert prend soin de nos disques. La semaine prochaine, je vous emmène entre un flipper et un distributeur de bonbons. Totemic sera chez Vincent Dedienne, comédien-chanteur.